Donc nous allons maintenant parler de l'anarcho-écologisme ou des liens entre l'anarchisme et l'écologisme. Donc je suis Francis Dupuis-Déry, je suis professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et je vais discuter avec Carl Frenk, que je vais présenter dans quelques instants, qui est doctorant et qui et dont la thèse porte justement sur les anarchistes et une partie de sa thèse traite de cette question du lien avec l'anarchisme individualiste. Principalement en France, et le végétarisme. Pour le dire rapidement, il nous donnera plus de détails dans quelques instants, mais simplement pour rappeler quelques grandes lignes de ce rapport affinitaire entre l'anarchisme et l'écologisme ou le végétarisme. Évidemment, commencer par dire peut-être que par définition, pas par principe d'ailleurs, mais dans les faits, ce ne sont pas évidemment tous les anarchistes qui accordent une importance prioritaire à l'écologisme. Ce ne sont pas évidemment tous les anarchistes non plus qui sont végétariens ou vegan ou qui ont un rapport spécifique avec les animaux, mais il y a quand même dans cette tradition anarchiste, il y a quand même un lien fort et donc qui peut s'exprimer de différentes manières à travers le 20e et 21e siècle, avec différents d'ailleurs projets politiques. On associe souvent le municipalisme libertaire de Murray Bookchin, par exemple, à une sorte de réflexion écologiste de l'anarchisme. Il y a l'écologie profonde ou deep ecology, il y a le primitivisme avec John Zurzan. Il y a du côté de l'activisme ou du militantisme dans les années 80-90 des réseaux horizontaux, anti-hiérarchiques et d'inspiration libertaire, ou en tout cas qui adoptent des principes libertaires et anarchistes comme Animal Liberation Front et Earth First, qui ont été qui se sont fait connaître pour mener des actions de sabotage, entre autres, contre des laboratoires qui menaient des tests contre des animaux ou qui ont incendié des projets immobiliers dans des zones qu'ils voulaient protéger ou qui ont effectué des opérations de sabotage contre de la machinerie forestière, par exemple, et qui ont été, au début des années 2000, d'ailleurs, identifiés par le FBI à des séances du Congrès aux États-Unis comme des éco-terroristes. Et le FBI, au début des années 2000, disait d'ailleurs que l'éco-terrorisme, ce qu'il qualifiait d'éco-terrorisme, représenterait en fait la principale menace de terrorisme intérieur aux États-Unis. Et d'ailleurs, des militants et militantes anarcho-écologistes ont été suivis par la police. Et il y en a certains d'ailleurs qui ont été très lourdement condamnés pour des méfaits finalement relativement mineurs. Mais si on revient... si on remonte en fait comme un saumon remonte le cours de la rivière, si on remonte aux origines de ces liens affinitaires, il y a eu donc chez les anarchistes au 19e siècle déjà, même si le végétarisme est souvent associé dans l'esprit des gens, je pense, et dans le sens commun, quelque chose de plutôt récent, peut-être les années 60-70, le mouvement hippie, mais en fait, des anarchistes, et en fait, pour le dire plus généralement, des socialistes aussi, étaient végétariens, étaient même ce qu'on appellerait aujourd'hui straight edge, c'est-à-dire qu'ils refusaient de boire de l'alcool, de fumer le tabac, par exemple. Il y avait différents arguments, j'imagine que Carl va nous en parler, mais un argument un peu pragmatique, c'était le prix de la viande. La viande coûtait cher, mais aussi il y avait cette idée qu'il fallait pas gaspiller son temps et son énergie dans la taverne du coin, qu'il fallait plutôt en fait s'engager dans des activités militantes, entre autres. Il y a évidemment d'autres réflexions dont on va entendre parler dans quelques instants. Et avant de commencer à écouter Carl, peut-être rappeler que des anarchistes célèbres, par exemple, ont écrit à ce sujet. Je pense à Louise Michel, donc une anarchiste, une révolutionnaire bien connue, associée à la Commune de Paris en France, qui, dans son autobiographie, explique très clairement en fait qu'elle est devenue anarchiste, selon elle, justement parce que dans son enfance, elle a été... outrée en fait par la cruauté envers les animaux et qu'elle a finalement transféré ce sentiment de colère ou de rage ou de ce sentiment d'injustice dont elle a été témoin quand elle était enfant face aux animaux aux humains, aux catégories humaines plus vulnérables. Je lis un extrait rapide de son autobiographie. Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qu'ils me souviennent l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Des cruautés que l'on voit dans les campagnes commettre sur les animaux, de l'aspect horrible de leurs conditions, date, avec ma pitié pour eux, la compréhension des crimes de la force. C'est ainsi que ceux qui tiennent les peuples agissent envers eux. Donc c'est vraiment une logique d'analogie. Elle est sensible à la cruauté que subissent les animaux et elle transfère cette sensibilité-là, en fait, fait écho à ce qu'elle voit que les forts, ce qu'elle appelle les crimes de la force, donc les crimes des puissants, font subir au peuple, c'est-à-dire aux classes populaires. Et Louise Michel insiste pour dire que le cœur de la bête est comme le cœur humain, son cerveau est comme le cerveau humain, susceptible de sentir et de comprendre. Donc, c'est cette idée que les animaux ont aussi une sensibilité. Et elle le dit encore, je termine là-dessus pour Louise Michel, elle dit « Étant enfant, je fis bien des sauvetages d'animaux. » Donc, quand elle était enfant, elle a sauvé des animaux. Et dans son autobiographie, elle raconte une situation où, en fait, elle est sur les barricades de la Commune de Paris alors qu'il y a des tirs croisés et elle quitte son poste de combat. D'ailleurs, elle va être critiquée pour avoir quitté son poste de combat, mais c'est pour sauver un chat, en fait, qui est pris dans un recoin d'une porte et qui est sous les tirs croisés. Elle risque sa vie pour sauver ce chat. Et je vais finir avec un autre exemple, c'est Élisée Reclus, moins connue que Louise Michel maintenant, mais qui en fait était un célèbre géographe à l'époque, très, très, très connu à l'époque, qui a publié plusieurs ouvrages très importants de géographie sociale, qui a écrit un livre aussi qui s'appelle « Évolution, révolution et idéal anarchique », mais surtout qui a écrit un texte qu'on peut retrouver sur le web aujourd'hui qui s'appelle « À propos du végétarisme », dans un journal qui s'appelait « La réforme alimentaire », publié en 1901, où il explique lui aussi en fait qu'il est devenu un peu anarchiste par ce choc qu'il a connu quand il était enfant face à la violence contre les animaux, entre autres quand on l'a envoyé enfant acheter de la viande à la boucherie. Et donc il dit j'étais, je le cite, c'est dans son texte justement là à propos du végétarisme, j'étais enfant un végétarien virtuel en puissance du petit gamin que j'étais portant encore une robe d'enfant, c'était la mode à l'époque. Je me rappelle distinctement l'horreur du sang versé à la boucherie et les cris de souffrance des bêtes. Comme Louise Michel, il procède par analogie et donc il dit que c'est cette habitude de voir l'étal des bouchers où coule le sang et où sont présentés les cadavres des bêtes nous habitue en fait à l'horreur des massacres qui constituent la condition première de notre nourriture habituelle. Et il fait des analogies entre la chasse et la guerre, et entre les massacres des animaux et les massacres humains sur les champs de bataille. Et il présente la posture végétarienne comme une posture de solidarité avec les animaux, je le cite encore. « Reconnaître la solidarité d'affection et de bonté qui rattache l'homme à l'animal, il s'agit d'étendre à nos frères dits inférieurs le sentiment qui, déjà dans l'espèce humaine, a mis fin au cannibalisme. » Donc voilà pour ces deux personnalités anarchistes de la fin du 19e siècle, début du 20e, qui nous racontent en fait avoir découvert une sorte de sensibilité à l'injustice face à la cruauté qu'on faisait subir aux animaux et dont ils ont été témoins dans l'enfance. Et on pourrait évidemment donner d'autres exemples. Il y avait des anarchistes portugais au début du 20e siècle, par exemple, qui se sont mobilisés contre les corridas déjà, donc contre la corrida, la cruauté des corridas. Mais assez parlé pour ma part, je vais passer le micro à Karl Frenn, donc qui complète présentement un doctorat sur l'anarchisme individualiste en France, fin du 19e, début du 20e, et qui est docteur à Cambridge, et qui termine présentement un article en lien avec le végétarisme et l'anarchisme en France au 20e siècle. Karl, bonjour.
Bonjour Francis.
Donc peut-être je viens de te présenter rapidement, mais peut-être te présenter en tes propres mots rapidement, et puis après je te lancerai une première question.
Je pense que tu as dit le principal. Je termine ma thèse, tant bien que mal, sur l'anarchisme individualiste en France.
Tu vas y arriver, j'en suis conscient.
Merci Francis. Avec ton aide, je suis sûr que ça se passera très bien.
C'était pas besoin de mon aide.
Donc un courant assez mal connu de l'anarchisme, et justement les anarchistes qui étaient celles et ceux qui préconisaient le végétarisme, le végétalisme, mais aussi le crudivégétalisme, faisaient partie de cette tradition minoritaire dite individualiste. Avant de commencer et de contextualiser un petit peu la question et de revenir sur l'histoire du végétarisme, j'ai bien aimé le fait que tu parles de Louise Michel, parce que je voulais noter qu'il y avait plusieurs femmes qui cherchaient à promouvoir le végétarisme fin 19e. Je pense notamment à la journaliste Caroline Rémy, qu'on appelle aussi Séverine, qui a écrit plusieurs articles sur l'exploitation animale dans le journal Le Cri du Peuple de Jules Vallès, et aussi la poétesse et activiste Marie Huot, qui fonda la Ligue populaire contre la vivisection en 1882. Donc, je souhaiterais avant toute chose revenir sur l'histoire du végétarisme très brièvement, et après le mettre en contexte, en relation à la mouvance anarchiste fin 19e. La première société végétarienne fut fondée en Angleterre en 1847. Le mouvement végétarien moderne, on peut dire, provient de l'Angleterre. Et il arrive en France en fin de siècle, plutôt dans les années 1880. Il y a une autre femme d'ailleurs, Anne Kingsford, qui a étudié à l'Université de Paris et publié une thèse doctorale sur le régime végétarien. Et c'était d'ailleurs la première femme, une des premières femmes à avoir un doctorat en médecine, qui réussit à l'obtenir sans faire d'expérience sur les animaux. Donc nous sommes en 1880, fondation de la première société végétarienne française, et également début de la mouvance anarchiste. Nous sommes en pleine révolution industrielle. Bien sûr, des millions de personnes émigrent de la campagne pour aller travailler dans des industries dans les villes. Il faut préciser que l'industrialisation en France était peut-être moins forte qu'en Angleterre et en Allemagne. Et les travailleurs et travailleuses vivaient, comme tu le sais bien, dans des conditions déplorables. Les logements étaient insalubres, les maladies faisaient ravage. Je pense en particulier à la tuberculose, à la syphilis. L'alcoolisme était également un grand problème. Mortalité infantile, et j'en passe.
Et l'alimentation, parce que là, du coup, à partir du moment où ils arrivent en ville, ils n'ont plus accès à des champs, ils n'ont plus accès... Il y en avait plusieurs qui étaient des travailleurs agricoles ou qui étaient peut-être des petits paysans ou qui avaient quand même accès à des ressources directes pour s'alimenter. Et quand ils quittent la campagne et qu'ils arrivent en ville, tout ça, c'est fini.
Tout à fait, oui. La malnutrition était un grand problème également. Et donc, beaucoup de personnes commencent à parler d'un processus de dégénérescence. Et en ce qui concerne la mouvance anarchiste de l'époque, je voudrais revenir sur la période des attentats entre 1892 et 1894. Il y avait des attentats et des assassinats anarchistes à l'époque à travers le monde, et celle-ci se termina avec l'assassinat du président Sadi Carnot par un boulanger italien en 1994. Suite à ça, il y a une longue période de répression. Les anarchistes partirent en exil, furent emprisonnés, envoyés au bagne, certains condamnés à mort. Et suite à l'échec de la propagande par le fait que la révolution n'était pas venue, la majorité des anarchistes se sont tournés vers la solution syndicale, le mode d'action principal qui est la grève générale, dans le but d'amener la révolution. Cependant, il y a une minorité d'anarchistes qui se réclamèrent de l'individualisme, qui s'opposèrent aux syndicats et même à la révolution. Ces personnes pensaient que même s'il y avait une révolution type 1789, qui consiste en une rupture soudaine, brutale avec l'ordre établi, cela n'allait pas changer les individus fondamentalement, et qu'on allait garder en nous tout type de préjugés, je pense en particulier aux préjugés d'ordre religieux, préjugés de genre, et que même une égalité économique n'allait pas changer l'individu à ce niveau-là. Et donc il fallait faire un travail sur soi-même, un travail de transformation sur soi, un travail de réappropriation corporelle, afin qu'il y ait un changement véritable qui s'opère dans chacun et chacune d'entre nous. Et donc ces anarchistes individualistes cherchèrent à changer et à mettre en question toutes les dimensions de la vie. Et cela passe par l'éducation, par les relations, l'amour libre, par des expériences de vie communautaire, dont on parlera, et par l'alimentation. Et donc c'est ces individualistes qui furent les principaux promoteurs du végétarisme fin 19e, mais surtout début 20e. Avant d'en venir aux anarchistes végétariens, il faut s'intéresser à un autre sous-groupe de l'anarchisme, ou plutôt de ce courant d'anarchisme-individualisme, à savoir le groupe des naturiens. Le groupe des naturiens commença à Montmartre, à Paris, avec Émile Gravel, un peintre illustrateur, qui a à l'époque la quarantaine et qui se réunit avec un petit groupe d'une dizaine de personnes, notamment deux personnes, Henri Zizli et Henri Bailly, qui ont eux la vingtaine, dont on parlera tout à l'heure, et qui se regroupent pour penser ensemble le retour à la nature. Et Gravel a une vision vraiment horrible de la civilisation, de l'ordre établi, et il va contraster cette diabolisation de la société. Mais je dis diabolisation, mais bon, c'est quand même le constat de la condition misérable et déplorable, surtout des travailleurs de l'époque. Donc finalement, ce n'est pas trop exagéré non plus. Il va contraster ça à une vision idéalisée, idyllique, de l'état de nature, du mythe rousseauiste, du bon sauvage. On voit ça notamment dans le journal qu'ils font en 1895, L'État naturel, où il va peindre, illustrer des figures préhistoriques d'hommes et femmes de la préhistoire avec leur corps musclé, en bonne santé, heureux. Et donc il y a vraiment ces deux mondes opposés, le monde industriel, capitaliste, de l'urbanisation dont il fait partie, et le monde de la préhistoire, le monde primitif, le monde naturel.
Et dans leur journal, est-ce qu'on arrive à voir comment eux mettent ça en pratique dans leur vie quotidienne? Parce que c'est bien d'avoir la préhistoire comme, comme référence, mais c'est peut-être plus difficile d'y retourner.
Effectivement. Disons que la tentative principale dont on va parler, c'est la création de colonies libertaires.
Ce qu'on appelait les milieux libres aussi?
C'est ça, les milieux libres. Ils commencèrent à en parler dès le début, donc dès 1895, mais au début, rien ne se fit. C'était plutôt des réunions, des repas, des buffets, des festins. Et parfois, ils allaient dormir à la Belle Étoile au Bois de Boulogne. Mais concrètement, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se faisaient, du moins les premiers naturiens. Donc là, on est entre 1895 et 1900. Ils étaient d'ailleurs critiqués pour cela. C'était surtout des artistes. C'était un peu la vie bohème à Montmartre, comme on l'imagine parfois. Il y avait également des artisans, beaucoup d'anarchistes d'ailleurs, en général, provenaient du monde de l'échoppe. Et ils avaient peur que leur métier allait disparaître. Et ils refusaient le salariat, ils refusaient de travailler en usine. Donc voilà, surtout des artistes de seconde catégorie, des artisans qui se rencontraient pour parler de la nature, manger ensemble, aller faire des promenades dans les parcs, mais concrètement ne faisaient pas encore du moins grand-chose. D'ailleurs, une anecdote, quelqu'un rendait visite, un anarchiste alla rendre visite à Henri Zizli, donc... Un des pionniers du mouvement, donc qui a la vingtaine quand le mouvement commence et qui suit Émile Gravel. Et il s'attendait justement à voir quelqu'un qui met en pratique cette vision idyllique de la nature, je ne sais pas, qui vit dans une cabane quelque part, mais pas du tout. En fait, il tombe sur quelqu'un qui est habillé de manière sobre, en noir, comme tout le monde, avec un faux col. Qui sort rarement de son appartement parisien dont les volets sont fermés. Donc assez déçu sur la mise en pratique de ces idéaux. Donc nous avons ces premiers naturiens, ce premier élan de critique de la civilisation. Et c'est là que je voudrais en dire un petit peu plus. L'originalité un peu des naturiens, comparée au reste de la mouvance anarchiste et même des individualistes, c'est qu'il y a une critique de la science. Et qu'à l'époque, les anarchistes croyaient en la science, étaient même scientistes. C'était la science contre la religion, c'était la science qui allait révéler la vérité, c'était la science qui allait nous montrer comment vivre et même comment nous organiser socialement parfois. Contrairement à ça, certains naturiens, pas tous, étaient contre la science, dans laquelle ils voyaient une nouvelle religion. Contre la science, c'est-à-dire également contre la civilisation. En général, l'industrialisation, l'urbanisation, la mécanisation, et ainsi de suite. Une autre partie des naturiens, plus en harmonie avec le reste des anarchistes, pensait qu'au contraire, on pouvait faire bonne utilisation de la science, notamment que la mécanisation pouvait soulager le travail des personnes dans les usines. Donc il y avait, ce petit conflit, ou des désaccords au sein de cette première vague du mouvement naturien. Émile Gravel quitte le mouvement assez rapidement, en 1898, après la mort de sa compagne. Et donc pendant quelque temps, le mouvement stagne. Il n'y a plus ce leader charismatique, mais il y a ses disciples principaux, donc notamment Zizli, dont j'ai parlé, celui qui portait des faux cols à Montmartre, et son ami Bailey, qui essaient de faire revivre le mouvement. Et là, c'est là que je peux commencer à parler un peu du sujet, c'est-à-dire des végétariens et des végétariennes. Parce que ces premiers naturiens n'étaient pas végétariens. Ils pensaient qu'à l'état de nature, les humains sont omnivores. Et que c'était un peu une aberration de penser qu'ils devaient être végétariens tout le temps.
Chasser le mammouth.
Oui, à Montmartre, il y a...
Il n'y en avait pas, mais beaucoup de... c'était l'image de la préhistoire.
Mais il y avait quand même des théories comme Bailey pensait que le régime végétarien était adéquat à la saison estivale, tandis qu'en hiver il fallait plutôt manger de la viande. Il y avait quand même cette idée que peut-être que la viande nous donnait plus d'énergie. Zizli par contre était plus en faveur, plus sympathique vis-à-vis des végétariens, même s'il les appelait les fanatiques de la nature. Lui pensaient effectivement que ça serait idéal si on vivait en harmonie avec les animaux et qu'on n'avait pas à les tuer, mais que ce n'était pas concevable.
Et on retrouve ces débats dans leurs journaux ?
Oui, tout à fait, oui. Des articles clairement sur critiquant le végétarisme qui paraissent dans leurs journaux, des journaux qui s'appellent comme La Nouvelle Humanité, Le Naturien, tout simplement. Mais ils publient également des articles dans d'autres journaux individualistes. Par contre, ils ne publient pas dans des journaux anarchistes, dominants, pardonnez le terme, disons plus
influents ou
plus influents, merci.
Plus, ouais.
Comme Les Temps Nouveaux de Jean Grave, parce qu'ils sont un peu discrédités par le reste du mouvement. D'ailleurs, les individualistes en général sont critiqués par les anarchistes, disons, majoritaires, mais d'autant plus les naturiens qui sont parfois ridiculisés avec quelqu'un comme Gravel qui veut retourner à l'état de nature. Ils ne sont pas vraiment pris au sérieux.
Et donc, à partir de quand on retrouve des anarchistes qui pratiquent vraiment le végétarisme et qui peut-être justement qui pratiquent ce retour à la terre dans ce que tu appelais les colonies ou les communes rurales, en fait?
Oui, je viens à ça de suite. Juste avant, je voulais juste terminer avec cette première mouvance naturienne. Donc, les premiers naturiens, surtout dans la dernière décennie du 19e et la première décennie du 20e siècle, n'étaient pas vraiment végétariens, même s'ils pouvaient le pratiquer de temps à autre. Il faut attendre la seconde génération des naturiens, les néo-naturiens, pour que le végétarisme soit vraiment adopté par des anarchistes et surtout des individualistes. Donc là, on est plutôt. Donc ça commence dans les années 10, mais c'est surtout dans les années 20, avec le journal d'Henri Lefebvre, néo-naturien, qu'on trouve ces anarchistes végétariens. Et donc, comme j'ai dit en début d'émission, qui ne préconisent pas seulement le végétarisme, mais aussi le véganisme ou le végétalisme, comme on l'appelle toujours, ou même le crudivégétalisme, donc le régime. Crudivore ou frugivore, comme on dit parfois. Et ces néo-naturiens étaient plus proches d'un courant de pensée plus large, qui est le naturisme et l'hygiénisme. Et ils étaient aussi beaucoup moins radicaux que leurs prédécesseurs naturiens, surtout Émile Gravel, dans la mesure où ce n'était pas le retour à un état de nature hypothétique, bon sauvage, primitif, préhistorique, auquel ils aspiraient, mais plutôt à une vie plus simple. Une vie plus simple, plus proche de la nature, en dehors des villes, sans biens matériaux superflus, superficiels. Et donc pour ça, ils essayaient de trouver des alternatives au logement, au transport, aux relations, à l'habillement, et ainsi de suite. Et bien sûr, alternatives à l'alimentation, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc il y avait toutes sortes de termes qui était employé pour parler de ces personnes qui souhaitaient également le retour de la nature, mais d'une manière, disons, pas forcément moins ambitieuse, mais plus réaliste, peut-être. Naturien, comme on l'a dit, mais naturiste, néo-naturien, naturarchiste, naturocrate, naturophile. Et encore une fois, c'est le même mouvement, le même élan, où on voit une civilisation industrielle qui amène une dégénérescence dans tous les sens du terme, physique, moral, dans lequel l'individu ne peut pas s'épanouir. Et on oppose à ça l'envie de redécouvrir une nature humaine qui serait libérée des tares de la civilisation.
Je pense dans leur colonie, dans leur commune rurale, ils pratiquaient, je sais que c'est pas directement lié au végétarisme, mais ils pratiquaient aussi le nudisme, non ? Ce qui faisait scandale un peu pour les villages ou les journaux locaux ou même la police qui les surveillait, non ?
Effectivement, oui, on parlait même parfois de nudisme révolutionnaire, parce que toutes ces pratiques de transformation du quotidien...
Du rapport au corps,
oui, étaient considérées par les individualistes comme des pratiques révolutionnaires, vu qu'ils pensaient pas qu'une révolution violente en quelques jours allait vraiment changer les personnes, comme j'ai pu le dire. Donc, en un sens, des pratiques comme le nudisme et comme le végétarisme étaient des pratiques de révolte, de révolution.
Et puis, est-ce qu'il y avait aussi, alors, du coup, dans ces communautés, un refus de consommation d'alcool, du tabac,
oui.
Café
Oui, bah, j'allais parler justement de ça. On parle de végétarisme, mais on n'emploie pas forcément le terme végétarisme et végétalisme à l'époque comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en général, c'est l'abstinence de chair animale ou de tout produit provenant des animaux pour le végétalisme, bien sûr. Mais à l'époque, c'était plutôt dans une perspective hygiéniste, beaucoup plus large, parfois. Je cite Jules Méline, qui a écrit l'entrée « Végétarisme » pour l'encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure.
Qu'on peut retrouver en ligne, d'ailleurs.
Qu'on peut retrouver en ligne, oui. Qui a été édité entre 1924 et 1935, si je m'abuse, quelque chose comme ça.
Les années 30, oui.
Où on trouve toutes des représentants, représentantes de toutes les traditions anarchistes de l'époque. Et donc je cite Jules Méline qui définit le végétarisme comme un système d'alimentation excluant tout ce qui est de nature à compromettre l'équilibre psychologico-mental et, par voie de conséquence, la vigueur de l'homme. Ainsi, la viande, les poissons, les spiritueux, les boissons fermentées, mais aussi le chocolat, le café, etc. Donc on voit bien là, on parle de végétarisme comme un système d'alimentation excluant tout ce qui est de nature à compromettre l'équilibre de l'homme. Donc clairement, ça dépasse seulement la chair animale. Oui.
Il y avait l'idée de l'équilibre, mais il y avait aussi l'idée, si je ne me trompe pas, c'est toi qui le sais, mais il me semble qu'il y avait aussi l'idée de l'autonomie. C'est si on est anarchiste, on veut être soumis à aucune domination, et donc être soumis à la domination de l'alcool ou la dépendance, par exemple, c'est considéré comme, antinomique de l'idéal d'autonomie, non, si je ne me trompe pas?
Tout à fait. Tout à fait. Vous voyez la autonomie en deux sens, c'est-à-dire que c'est vrai que ils voyaient ça comme une manière de rendre les ouvriers esclaves.
Par l'alcool, par exemple, les abrutir avec l'alcool.
C'est ça. Et également esclaves économiquement.
Parce qu'on dépense notre argent pour des distilleries ou des compagnies qui produisent du tabac ou du.
Tout à fait. Chose qu'on ne peut pas produire par soi-même ou très difficilement. Et donc, dans les colonies libertaires, dans les milieux libres dont on va parler, il y avait cette volonté de simplicité volontaire et de se réapproprier, donc, comme on l'a dit, son quotidien et les moyens de production, tout simplement. Donc, pour revenir à l'individualisme plus généralement et aux personnes qui ont promu ce végétarisme, il faut parler j'ai envie de parler de trois personnes principalement. Donc qui se revendiquent de l'individualisme, également du naturianisme, surtout donc des néo-naturiens, cette deuxième génération de naturiens plutôt dans les années 20. Et là, je pense à Sofia Zajkowska et son partenaire Georges Buteau. Et également, on va parler également de Louis Rimbaud. Donc Zajkowska et Buteau, ce sont des personnages, des individus vraiment intéressants. Zajkowska vient de l'Empire russe, historiquement, donc qui est aujourd'hui la Lituanie. Elle a fait des études à Genève, en sciences physiques, plutôt ce qu'on appelle la biologie, plutôt des choses comme ça. Et elle est arrivée à Paris, où elle a rencontré Buteau, dans un groupe de personnes qui, justement, s'étaient réunies pour penser à la fondation de milieux libres, de colonies libertaires. Buteau, lui, vient de Belgique. Il a travaillé en Suisse et finalement s'est retrouvé également à Paris. La plupart des personnes dont je parle ici gravitent autour du milieu anarchiste parisien. Donc il s'est retrouvé à Paris où il a rencontré sa compagne et partenaire et collaboratrice de vie, Sofia Zajkowska. Et ces deux individus sont les plus importants promoteurs et promotrices des milieux libres. Ils ont fondé 3-4, il y en a un qui n'a pas fonctionné. Et également, ils devinrent par la suite les promoteurs les plus importants du végétarisme à partir des années 20. Pour illustrer ce que furent ces colonies libertaires, je voudrais juste lire un petit passage qui introduit une des premières publications d'une de ces colonies. Préparer pour tous ce qui est déjà possible pour les quelques-uns que nous sommes. Une société harmonieuse d'hommes conscients, rajoutons de femmes conscientes, prélude d'un monde de liberté et d'amour. Nous sommes simples, végétariens, abstinents, et nous fondons notre espoir de vie communiste sur le développement de la conscience, du sentiment, de la volonté, du courage, de l'initiative individuelle, de la non-violence entre camarades. Donc Buteau et Zajkowska, fondateurs, fondatrices de divers milieux libres, ont créé le milieu libre notamment de Bascon, dans l'Aisne, nord-est de la France, si je ne m'abuse, qui devient entièrement vegan en 1914, donc il était fondé en 1911, et qui fut le milieu libre qui perdura le plus longtemps. C'était une colonie donc libertaire jusqu'en 31, de 1911 à 1931, puis c'est devenu un centre de vacances naturiste et végétarien jusqu'en 1951. Il faut dire que la plupart des milieux libres ne duraient que 3-4 ans, qu'en général il y avait une vingtaine de personnes qui étaient présentes, et c'était voulu parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop de personnes, ce n'était pas gérable. Ces colonies libertaires étaient plus ou moins excentrées, disons plus ou moins loin des villes. L'idée, ce n'était pas forcément l'autarcie, l'autonomie totale. Souvent, ces personnes-là maintenaient des liens avec des camarades, des militants, militantes en ville. C'était d'ailleurs des endroits où les militants, militantes venaient se réfugier ou se reposer parfois. Et également, même s'il y avait peu de personnes qui y habitaient de manière permanente, beaucoup de personnes qui venaient, pas forcément faire du tourisme, mais venaient pour des conférences ou effectivement pour se reposer, pour faire du tourisme aussi, les gens étaient curieux. Et donc il y avait des centaines de visiteurs, bien qu'il n'y avait que également une centaine en tout et pour tout de personnes qui participèrent concrètement et activement à ces expériences de vie communautaire. Et puis il y avait à peu près, disons, entre 15 et 20 milieux libres entre 1902, quand la première communauté fut fondée, à 1930 à peu près.
Et puis d'un point de vue de ta recherche doctorale, tu les documentes comment ces réseaux végétariens, leurs discours, leurs pratiques et tout? C'est à travers leurs journaux, c'est à travers des rapports de police, c'est à travers...
C'est effectivement les deux. Disons que les journaux étaient très importants à l'époque. Ils représentaient vraiment différents courants, différentes branches de l'anarchisme ou de l'individualisme. Comme j'ai dit, il y a des journaux qui s'appelaient clairement le naturien, mm-hmm. le néo-naturien, donc c'était assez explicite. Et ils avaient également des conférences, des réunions hebdomadaires.
Les conférences sont des fois publiées en forme de petites brochures après, non?
Tout à fait, oui. Ou alors des parties des conférences sont incluses dans les journaux. Et aussi également, il y a de la publicité pour les conférences, pour les réunions dans les journaux. C'est tous les mercredis, groupe anarchiste du 15e se retrouve, et ainsi de suite. Ou alors, promenade à la colonie libertaire ce dimanche dans les journaux anarchistes.
Ah oui, on annonçait le départ. Oui, c'est ça, oui.
Et tous ces groupes, pendant ces conférences, et également le siège des journaux était surveillé de près par la police. Il y avait également des indicateurs qui faisaient partie de tous ces groupes. Et on retrouve des informations dans les rapports de police, tout à fait, qu'on trouve à la préfecture de police, aux archives de la préfecture de police de Paris. Donc pour en revenir brièvement à Buteau et Zaïkovska et leur propagande végétarienne, donc j'ai parlé du milieu libre de Bascon qui devint un centre naturiste et végétarien jusqu'en 1951. Ils ont également fondé la Société végétarienne communiste en 1919 et des foyers végétaliens, donc des centres communautaires en fait, où ils accueillaient principalement des anarchistes. Il y avait quelques lits, il y avait des conférences, il y avait des cours d'espéranto. Donc un foyer qui a commencé à Nice, puis un autre à Paris qui était un peu plus actif et qui ont constitué le modèle pour d'autres foyers de ce type à travers la France. Et finalement, en 24, le couple lança le journal Le Végétalien, encore une fois un titre assez explicite, que Zaïkovska édita par elle-même après la mort de Buteau, parce qu'il est mort deux ans après, en 1926. Zaïkovska qui d'ailleurs écrit l'entrée Végétalisme dans l'encyclopédie anarchiste de Faure. Donc, je voudrais parler brièvement de Louis Rimbaud, une troisième personne qui est vraiment intéressante pour l'anarcho-végétarisme, disons. Donc Rimbaud, il a participé à la fondation de Bascon, la colonie de Zaïkovska et de Buteau, où il habitait quelques années avec sa femme Clémence. Ça, c'est dommage parce qu'en fait, on parle souvent des compagnes des anarchistes et on dit sa compagne, parfois on ne les nomme même pas. Là, j'ai le nom juste Clémence. Donc je ne sais pas s'ils étaient mariés, ça aurait été... Je pense qu'ils étaient mariés, oui, pardon. Donc Clémence Rimbaud, mais malheureusement, on en sait assez peu sur ces femmes en général. Je précise aussi que Zaïkovska s'identifiait comme... féministe, anarchiste, individualiste. Et elle s'insurgeait d'ailleurs quand on parlait d'elle comme la compagne de Buteau, alors qu'elle était tout aussi impliquée dans la fondation des milieux libres, dans l'édition des journaux, et c'était vraiment une figure importante de l'individualisme à cette époque. Mais pour revenir brièvement à Rimbaud, donc je disais Rimbaud, mon camarade de Zaïkovska et de Buteau, qui fonde finalement lui-même son propre milieu libre et qui participe d'ailleurs au foyer végétalien, qui donne des conférences, qui écrit pour le néo-naturien. C'est un petit monde qui se côtoie. D'ailleurs, plus tard, il va être un petit peu en froid avec Buto Isakowska et il va fonder un journal concurrent, disons, végétalien, mais qui argumente plus ou moins la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fonde une autre colonie qu'il appelle une cité végétalienne, Terre Libérée, en Indre-et-Loire. Et cette colonie-là, c'était censé être une continuation de la colonie de Bascon, mais il insistait vraiment sur le véganisme, le végétalisme, le végétarisme strict. Et il voulait qu'il y ait comme une école de pratique végétarienne qui cherchait à démontrer que le végétalien pouvait se suffire à lui-même. Et il voulait en fait des personnes qui étaient déjà végétariennes et végétaliennes, il voulait des convertis qui souhaitaient continuer à explorer le régime végétalien et les bénéfices pour la santé que cela avait. Et là, je pense que c'est une bonne transition pour parler des arguments. Pourquoi est-ce qu'ils étaient végétaliens, végétariens ? Rimbaud, lui, était plutôt hygiéniste. D'ailleurs, il a écrit les articles médecine et d'autres termes médicaux pour l'encyclopédie anarchiste. Et l'hygiénisme pensait que, pour être en bonne santé, il fallait vivre en harmonie avec la nature, en suivant les lois naturelles. Et qu'un corps sain, c'était un corps qui était capable de se protéger des maladies. Et que c'est seulement quand on transgresse ces lois naturelles que les maladies peuvent nous atteindre. Donc aujourd'hui, on parlerait de système immunitaire. Et donc l'alimentation, le régime alimentaire, c'était le moyen principal de solidifier notre système immunitaire. On parle également de la bonne utilisation de l'eau, de l'air, du soleil. Tu parlais de naturisme tout à l'heure, pardon, de nudisme. Le nudisme, c'était pas seulement pour libérer le corps des vêtements et tout ça, mais c'était vraiment l'exposer aux éléments qui était censé être bon pour la santé.
Et il y avait gymnastique et travail manuel aussi.
Aussi, effectivement, la gymnastique, l'exercice physique en général était très important. Surtout la gymnastique suédoise. Et en plus de ça, Rimbaud pensait que le végétalisme avait des vertus curatives, donc thérapeutiques. Il a d'ailleurs inventé une salade qu'il appelait la basconaise basée sur le nom de la colonie à Bascon. Une salade de 34 ingrédients au moins qui pouvait s'adapter aux préférences de chacun et chacune et aussi aux saisons. Et qui était censé être un repas optimal, qui suffisait et qui était aussi abordable. Avec toutes sortes de légumes, de racines, totalement végétaliens. D'ailleurs, Zajkowska en fit un peu la base de son alimentation par la suite. Zajkowska, qui elle aussi croyait fortement en les vertus médicinales, thérapeutiques du végétalisme, et qui dit qu'il d'ailleurs a adopté le végétalisme principalement pour des raisons de santé. De la même manière, on dit qu'à Bascon, en 6 ans, personne n'est tombé vraiment malade. À part quelques petits désagréments de santé. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'argument phare à l'époque, pas que chez les individualistes, pas que chez les naturiens, les néo-naturiens, mais tous les naturistes, les hygiénistes, qui n'étaient d'ailleurs pas tous et toutes végétariens, végétariennes, c'est que le véganisme, c'est le régime de santé, c'est le régime de régénération contre la dégénérescence de l'homme à cette époque, c'est le régime naturel. Qui est le meilleur régime pour l'humain. Après, il y a, disons, deux autres arguments qui sont d'ordre, disons, d'émancipation personnelle, individuelle, pour le végétalisme, et deux autres qui seraient plutôt, d'ailleurs, plus communs aujourd'hui, qui s'intéresseraient aux animaux et à la nature en tant que telle. Comme tu l'as dit un peu avant, le second grand argument pour le végétarisme, c'est l'indépendance économique. En gros, c'est pas cher, et on peut produire par soi-même, on n'a pas besoin d'animaux pour se nourrir, ni pour produire de la nourriture. Donc par exemple, dans une conférence, il y a quelqu'un qui parlait certaines personnes essayaient de chercher le plat le plus nutritif, le plus complet, le moins cher. Il y en a un qui était composé de maïs, de gruau, de cacao et de phosphate, qui devait coûter 25 sous seulement. Et il y a plein d'exemples comme ça de recettes végétariennes, végétaliennes, anarchistes de l'époque, qui sont assez drôles. Et il y avait également une volonté, donc dans cette idée d'indépendance économique, de dissocier, un peu à la manière épicurienne, entre les besoins naturels et nécessaires et les besoins artificiels et non nécessaires. Et la viande et les produits provenant des animaux étaient tout simplement considérés comme des biens superficiels dont il faudrait se passer et on se porterait beaucoup mieux si on s'en passait. Donc voilà, indépendance économique, argument qui, je pense, était beaucoup plus mis en avant à l'époque qu'aujourd'hui. Second argument pour le végétarisme à l'époque. Troisième, la réforme morale. Ces individualistes, ces naturistes, pensaient comme... l'argument est assez commun et a été utilisé par des éthiciens des animaux aujourd'hui. Et même Kant en parlait, quand il disait que la cruauté envers les animaux rendait l'humain plus cruel envers d'autres humains. Là, c'est un peu le contraire, c'est que la bonté envers les animaux nous rend meilleurs. Donc, le véganisme comme tremplin pour le développement moral. Et là, c'est intéressant, je vais citer un questionnaire du foyer végétalien de Paris, donc celui qui était le centre communautaire végétalien anarchiste fondé par Buto et Zajkowska, où il y a une personne, par exemple, dénommée Bourguignot, qui dit « Plus l'individu pratiquera le végétalisme, plus il s'approchera de la nature, plus il se développera, plus il vivra sainement, plus il sera heureux et bon pour les autres. » Une autre personne, Charlotte Davy, « Tous végétaliens, la vie plus simple, l'humanité moins sanguinaire, plus de bonté, mais quel bouleversement dans la mentalité générale, quelle révolution dans les mœurs. » Voilà, c'est clair, c'est la réforme, la transformation, l'élévation morale grâce à l'adoption de ce régime végétalien. Brièvement, il faut aussi dire que c'était quand même assez radical d'être végétarien à l'époque. C'était pas très en vogue. Je dis ça malgré le fait qu'on a quand même un article du Figaro de 1906, si je ne m'abuse, qui parle du végétarisme comme une nouvelle mode. Donc si le Figaro en parle, c'est que c'était quand même assez répandu, surtout dans les courants hygiénistes et naturiens, pour que ça ait un impact dans la société. Néanmoins, le végétarisme, par ces anarchistes, est aussi mis en pratique comme mode de vie anarchiste ici et maintenant. Ce qui est la grande idée individualiste, je pense que je ne l'ai pas dit, je vais le dire en passant, c'est que les individualistes critiquaient les autres anarchistes pour attendre le grand soir, attendre la révolution, un changement hypothétique dans un futur lointain, une utopie, alors que finalement, ils ne faisaient rien dans leur quotidien, selon les individualistes, pour mettre en pratique les principes anarchistes dans leur quotidien. Par exemple, ils faisaient baptiser leurs enfants, ils battaient leurs femmes, et ainsi de suite. Par contre, les individualistes, leur grande idée, c'était de préfigurer l'anarchie, c'est-à-dire de vivre en anarchiste ici et maintenant. Et le végétalisme en faisait partie. Et c'était également perçu comme un mode de révolte contre la société, contre l'ordre établi. J'en viens aux deux autres arguments. Donc cette fois-ci, pas d'émancipation personnelle pour le végétalisme. Et ça, je dirais que c'est sûrement les arguments qui ont le plus de poids aujourd'hui, mais le moins à l'époque. Donc premièrement, tout simplement, il y a le bien-être animal, hein, la valeur en soi de la vie des animaux. Je vous fais quelques citations. Rimbaud parle du commerce nécrophage de la production de viande. Il déplore la cruauté que cela implique. Il parle des animaux qui sont surmenés, harassés, affamés, maltraités, terrorisés. Libertad, qui est grande figure individualiste qui fonda le journal Anarchie, dit qu'en mangeant de la chair animale, vous vous rendez complice d'innombrables meurtres qui ne vous profitent pas. Vous êtes des victimes qui se laissent nourrir du sang d'autres victimes. Et enfin, j'ai envie de citer Rirette Maître-Jean, qui a écrit des mémoires, qui a dirigé le journal Anarchie pendant quelques temps, avec son partenaire Victor Serge, et qui dit « Les anarchistes individualistes ne sauraient voir dans leurs assiettes de la viande abattue. Ils portent, gravés au cœur, la devise « Soyez bons pour les animaux ». Bon, c'est assez clair. Je dois préciser quand même que, en fait, Rirette Maître-Jean dit ça de manière un peu ironique, parce qu'elle-même n'était pas végétarienne, et d'ailleurs, ça illustre le fait que tous les individualistes n'étaient pas végétariens, végétariennes, et qu'il y avait des petits conflits. À un moment, ils étaient au siège de l'anarchie, qui s'était transformée en une colonie urbaine, parce qu'il y avait également, c'était surtout celle-là, mais une colonie libertaire en ville, à Paris.
Le siège de l'anarchie, c'est le journal.
Le journal, oui, le siège du journal, merci. Et il y avait donc André Leroulo, qui dirigeait le journal à l'époque, qui était un végétarien strict, et qui ne tolérait pas du tout des écarts alimentaires. Et Riyad Maître Jean et Victor Serge, eux, voulaient manger de la viande et acceptaient pas ça.
Ça crée des tensions.
Ça a créé des tensions. Et donc, il y a plein de petits exemples comme ça, comme à un moment, il y a des huîtres qui sont commandées par Bailey. Bailey, donc, je rappelle, le naturien, ami de Zizli, disciple de Gravel, qui habitait donc, à la colonie de Bascon avec Buteau. Buteau végétarien strict, et Zizi avait commandé des huîtres d'une coopérative communiste, et Buteau s'était énervé parce que c'était pas le régime alimentaire qu'il préconisait, donc petit désaccord à ce niveau-là, donc ça montre qu'il y avait, et parfois même dans les colonies, je me rappelle, il décrivait la manière dont les repas étaient pris, et il séparait carrément les végétariens des non-végétariens, il y en a qui mangeaient d'un côté et d'autres qui mangeaient d'un autre côté. Comme j'ai pu le dire, il y avait dans le cœur vraiment des individualistes à peu près quand même une bonne moitié qui était végétarien complet, disons intégral.
Et donc le dernier argument ?
Le dernier argument, c'est celui de la nature ayant une valeur en soi, de l'idée de protection de la nature tout simplement, et même quelqu'un comme Rimbaud qui lui, comme je l'ai dit, est plutôt hygiéniste et pensait que c'était plutôt pour la santé qu'on devait être végétalien.
Qui n'est pas Rimbaud le poète, là.
Non, c'est
Rimbaud l'anarchiste.
C'est un autre Rimbaud. Malgré que beaucoup d'anarchistes écrivaient des poèmes, hein, c'est mal connu, on devrait travailler sur ça également. Rimbaud qui dit qui parle de sa basconnaise, sa fameuse salade de 34 et plus ingrédients, que pour la confectionner, l'anarchiste doit prélever au jour le jour, feuille par feuille, sur chaque plan, et pour chaque plant qu'il arrachera, par nécessité indispensable, il en fera pousser plusieurs autres, en rétablissant lui-même l'équilibre de la nature. Donc voilà, même pour quelqu'un comme Rimbaud, la nature doit être protégée et a une valeur au-delà des êtres sentients qui la peuplent. Donc voilà, on a ces arguments quand même principalement sur l'émancipation de l'individu. Au niveau de la santé, contre l'alcoolisme, contre les maladies, contre les conditions déplorables dans lesquelles les gens vivent en ville, dans une perspective de retour à la nature. Pour les mêmes raisons, l'argument économique, indépendance, émancipation économique, développement de soi, tout simplement, hein, cette idée individualiste comme quoi la révolution commence en nous-mêmes, par le travail sur nous, par la transformation de notre quotidien. Et également, plutôt minoritaire, mais important néanmoins, le bien-être animal, la valeur de la vie animale et la valeur de la nature en tant que telle.
Et puis si on pense aujourd'hui, on va peut-être terminer avec ça, si on pense aujourd'hui aux actions que les médias privés et publics présentent comme une sorte de nouveauté, les attaques contre les boucheries ou les occupations de porcheries qui ont lieu en France, mais qui ont lieu aussi depuis quelques mois à Montréal, mais qui en fait sont des pratiques qui existaient déjà dans les années 90, c'est simplement qu'on a on n'a pas de mémoire historique. Mais ça, c'est quelque chose que tu n'as pas retrouvé dans tes archives ou dans tes sources 1920. J'imagine aussi qu'il n'y avait pas encore... Évidemment, il y avait des boucheries par définition, mais on n'est pas encore non plus dans l'industrie alimentaire industrielle de masse comme on a peut-être à partir de l'après-deuxième guerre mondiale.
L'action que tu me poses, pour clarifier, sont des actions contre les véganes.
Non, c'est l'inverse. C'est des actions véganes...
Contre les boucheries.
Oui, exact.
Je n'ai pas retrouvé d'action de ce type-là. Il y avait aussi une idée individualiste qui était de se retirer un peu parfois quand même de la société et un peu de faire la révolution par soi-même,
donc de
pas
l'attaquer frontalement.
Pas forcément, parce qu'ils étaient un peu désabusés par la propagande par le fait qu'ils essayaient précisément de faire ça dans les années 90, donc qui avait mené à cette vague de répression terrible, emprisonnement, envoi au bagne, condamnation à mort et ainsi de suite. Et donc, suite à ça, c'était plutôt l'idée de se retirer en communauté. Malgré ça, je pense à une des personnes, Marie Huot, que j'ai citée en début d'émission, la poétesse et activiste, qui a fondé la Ligue populaire contre la vivisection, qui faisait déjà des actions du type... avait interrompu, je pense, une conférence sur un vaccin contre la rage qui avait été mise en place avec de l'expérimentation animale. Donc c'est un exemple qui me vient en tête, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'attaque de boucherie ou de choses de ce type-là à l'époque.
Et puis, peut-être pour terminer avec ça, c'est toujours difficile quand on travaille dans du matériel historique, de période qui date de plus d'un siècle. C'est peut-être une question difficile, je ne sais pas si tu peux y répondre, toi, par rapport, quand tu te plonges dans ces archives et dans ces expériences et dans ces récits, dans ces personnages que tu nous as présentés, est-ce que ça fait écho pour toi avec des préoccupations militantes d'aujourd'hui, des réseaux anarchistes que tu as pu voir en France ou peut-être en Grande-Bretagne, puisque tu es basé là aussi, ou ici, au Québec? Ou c'est quelque chose qui est... Est-ce que ça a une valeur... Par définition, c'est une valeur historique, l'histoire est intéressante en elle-même. Mais quels échos tu y vois par rapport au contexte actuel?
Disons qu'on est toujours impressionné par le fait que ces arguments ont été mis en avant il y a 100 ans, voire plus, et la pertinence qu'ils ont encore aujourd'hui. On dirait que la dégénérescence aujourd'hui, elle n'est pas seulement sociale, elle n'est pas seulement due aux usines, mais elle est planétaire. Donc la fumée, elle ne sort plus des cheminées d'usines, mais voilà, l'Australie est en fumée. Mais donc la critique elle est similaire. Alors, là, je pense à la zone non motorisée de Notre-Dame-des-Landes, je pense aux personnes qui se revendiquent de l'anarcho-primitivisme aujourd'hui. Pour moi c'est très en lien avec la première mouvance naturienne, par exemple, les personnes qui se revendiquent anti-tech, anti-civ. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de choses à en apprendre de nouveau en relisant ces textes. Mais c'est intéressant aussi pour voir comment ça a évolué, parce que c'est pas comme si le végétarisme s'était répandu et développé depuis cette époque. Il y avait plus de végétariens anarchistes, et le végétarisme faisait plus débat au sein du mouvement dans les années 20 que dans les années 50 et même 70, et aussi jusque les anarchistes. Même les historiens non anarchistes connaissent très mal ce courant-là et ces personnes.
Leur propre histoire,
ouais. Voilà. Donc c'est pas nouveau. Et quand le mouvement écologiste commençait dans les 60-70 et puis vegan plutôt 80-90, personne ne parlait de ces personnes. Donc c'est toujours intéressant de recontextualiser, voir quels étaient leurs arguments, quels arguments sont encore pertinents aujourd'hui, et où est-ce qu'on les dépasse, et comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on peut s'en inspirer pour la lutte aujourd'hui?
Merci beaucoup. Bon courage avec la fin de la thèse.
Merci Francis.